Vous écoutez
RMC.
Lundi 18 mai,
l'info sur RMC.
Il est 8h02, c'est Céline Kallmann qui est là pour les infos. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Après les maternelles et primaires la semaine dernière, rentrée au compte-gouttes pour les collégiens aujourd'hui, mesures sanitaires strictes et port du masque obligatoire. 70 cas de fermeture d'école par précaution, précise ce matin Jean-Michel Blanquer. Dans ce journal également un témoignage, celui du père du garçon décédé de symptômes de la maladie de Kawasaki le 8 mai à Marseille. Il avait 9 ans, la famille envisage de porter plainte. Et puis l'Italie rouvre ses commerces, bars, restaurants, mais aussi des lieux de culte comme la basilique Saint-Pierre de Rome. Une reprise trop précipitée pour une partie des Italiens. Bienvenue à tous sur RMC. Plus de 2 mois que le réveil n'avait pas sonné, une partie des élèves de 6e et 5e retrouvent leurs camarades et professeurs au collège. Et comme en primaire, les mesures sanitaires sont drastiques. On retrouve Anaïs Denet devant le collège Debussy à Angers. Anaïs, un tiers seulement des élèves de 6e et 5e reprennent ce matin.
Oui, les élèves dans ce collège d'Angers, ils vont arriver ici d'une minute à l'autre. Vous le voyez sur cette image de Pierre-Emmanuel Bessé. Ils vont passer cette grille. Il y aura prise de température, évidemment. Si c'est au-dessus de 37,8, eh bien, ce sera retour à la maison, confinement. Si ce n'est pas le cas, ils rentrent à l'intérieur. Ils enlèvent leur masque personnel. L'établissement leur fournira ensuite 4 masques pour la journée. Ensuite, dans la cour, eh bien, il y a un marquage au sol. Ils se positionnent à l'intérieur, attendent le signal pour rentrer en classe. Ils restent toute la journée dans la même classe. Ce sont les professeurs qui bougent avant de rentrer en classe, évidemment. Eh bien, lavage des mains, table à 1 mètre de distance, et ensuite sur chaque table, de façon nominative, eh bien, il y aura une visière, un masque, double protection pour ces élèves pendant leurs heures de cours. Et puis ensuite le self le midi à l'intérieur du bâtiment, eh bien, ce sera un plateau pareil sur une table, tout seul pour manger, pas de pique-nique. La nourriture ce midi est fournie par l'établissement.
Anaïs Denet avec Pierre-Emmanuel Bessé pour RMC. Un masque, pas d'embrassade, donc, mais qu'importe. Margot, élève de 5e à Nice, va s'adapter avec sa maman Sandra. Elles sont impatientes de reprendre un rythme un peu plus normal.
On peut dire que c'est comme une nouvelle rentrée. Les amis, d'habitude, qu'on se voit, on se fait des câlins ou on se fait des bisous pour dire bonjour. Là, il y aura les 1 mètre de distance, donc ça va être un peu plus différent.
Je suis contente qu'elles reprennent. L'idée, c'est quand même reprendre le chemin de l'école, c'est reprendre le chemin de la vie, d'une certaine façon, la vie ordinaire. Que chacun, à nouveau, retrouve un peu la place à laquelle il est convié, en fait.
Et 70 cas de fermeture d'école par précaution, précise ce matin Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. À Fleury-les-Aubrais, les collèges n'ouvriront pas. Décision de la maire de la ville, par précaution. Là aussi, fermeture aussi des écoles primaires après la découverte d'un foyer de contamination dans un abattoir. 34 cas de Covid-19 détectés. 69 aussi dans un autre abattoir situé, cette fois dans les Côtes d'Armor. Au total, 25 foyers de contamination identifiés sur tout le territoire, dont l'un à Compiègne, dans l'Oise, dans un foyer de travailleurs étrangers. Tout le monde a très vite été testé. Nicolas Repère.
C'est début mai qu'un premier membre du foyer est détecté malade du coronavirus. Quelques jours plus tard, un deuxième cas est signalé. Éric Niquez, le directeur de l'établissement, décide alors d'agir.
Je vais tout de suite, bien sûr, confiner l'étage. Et on a donc pris l'initiative donc de demander à l'ARS de tester l'ensemble du foyer, c'est-à-dire un peu plus de 200 personnes.
Résultat, 12 personnes au total sont testées positives. Un moindre mal, reconnaît le directeur du foyer.
Tout s'est fait quand même de façon assez rapide, parce qu'on l'avait anticipé. Moi, ce que je voulais absolument éviter, c'est d'avoir 200 personnes contaminées. On est par contre probablement passé à 2 doigts d'une catastrophe qu'on aurait si on n'avait pas testé l'ensemble du foyer.
Les 12 malades ont été placés à l'isolement. Les résidents vont, eux, être confinés à leur étage.
RMC 8h06, il a décidé de parler malgré la douleur pour alerter les autres parents. C'est un père anéanti qui prend la parole ce matin. Son fils de 9 ans a succombé le 8 mars dernier à Marseille à une forme proche de la maladie de Kawasaki. Des symptômes décrits chez des enfants ayant été en contact avec le coronavirus. À ce jour, 144 cas ont été répertoriés selon la Direction Générale de la Santé. Ce papa s'est confié à nos confrères de BFM TV pour alerter aussi les autorités.
Je ne souhaite à aucun parent de vivre une tragédie pareille. C'est parti d'une fièvre, une interne. Elle est arrivée, elle a commencé à l'examiner. Elle a déshabillé, elle a regardé toutes ses plaques rouges, ses boutons rouges. Elle n'était pas très rassurée. On est rentré à la maison. Le petit, il a commencé à avoir la tête qui va en arrière. Il a les yeux qui tournent. Les pompiers, ils étaient directement sur place. Ils ont fait très vite. Ils l'ont pris en charge, on l'a mis sur le brancard. Ils ont vu qu'il ne respirait plus. Il avait on ne trouvait plus son pouls, le cœur il avait arrêté de battre. Il a été admis en service de réanimation à l'hôpital de la Timone. Le diagnostic était que mon fils est tombé dans une mort cérébrale, il n'y a plus rien à faire. J'ai demandé, est-ce que vous avez trouvé à quoi ça a été dû? Le médecin m'a dit qu'il s'avérerait que les symptômes ressemblent aux symptômes du Kawasaki. Mon fils n'avait pas d'antécédent médical, il était en parfaite santé.
Et juste après le journal, le professeur Damien Bonnet, chef du service de cardiologie pédiatrique à l'hôpital Necker à Paris, sera Jean-Jacques votre invité. Dès la semaine prochaine, le gouvernement va réfléchir à un plan pour améliorer les conditions de travail à l'hôpital. Un plan santé avant l'été. Il est notamment envisagé de déplafonner les heures supplémentaires aujourd'hui limitées à 15 heures par mois. Mais les soignants, eux, ne réclament qu'une seule chose, une revalorisation significative des salaires. Thierry Amourou, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmier, l'a dit ce matin sur RMC.
Nous, ce que l'on attend, c'est le différentiel de salaire entre une infirmière française et le salaire moyen infirmier européen, c'est-à-dire 300 euros par mois. On est sous-payé en France. Il y a eu ces parlementaires qui ont lancé un appel au don de RTT qui serait transformé en chèque cadeau via une usine à gaz. Non, pas du tout. Nous, on est pour la reconnaissance de nos compétences, de nos responsabilités, de notre engagement au quotidien. Et donc, on veut être payé correctement par l'État employeur.
C'est aujourd'hui que les 30 000 équipes municipales élues dès le premier tour, le 15 mars dernier, vont entrer en fonction. Un décret a été publié aujourd'hui au journal officiel vendredi, début d'une période de transition. Donc, mais ça y est, les conseillers municipaux vont enfin pouvoir mettre les pieds en mairie, préparer le début de leur mandat. Reportage au Chesnay-Rocancourt dans les Yvelines, Juliette Pietraszewski et Pierrick Bonneau.
9 élus, pas un de plus pour respecter les règles. Lunettes de soleil sur le nez, nous sommes dans le jardin de Véronique Siadou, future adjointe aux affaires sociales.
C'est notre première réunion ensemble. Là aujourd'hui, on sait que ça y est, on y est. Mais c'est vrai qu'on est quand même plusieurs semaines avec beaucoup d'incertitudes.
Ce matin, le nouveau maire Richard Delpierre va enfin pouvoir se rendre en mairie. Mais pas facile de reprendre le flambeau en pleine crise sans avoir eu accès au dossier.
Nous aurions aimé, quand on a vu le temps qu'allait durer ce confinement, pouvoir préparer la suite, parce qu'on savait qu'on avait la suite à préparer, et notamment le vote du budget. Le fait de ne pas pouvoir avoir eu accès ni au service, ni au dossier, a été un peu compliqué à gérer, mais on arrive à la fin de cette séquence.
Benoît Ribert, futur adjoint à la transition écologique, a hâte de passer aux choses sérieuses.
Mais il y a un mélange de plein de choses, il y a de l'envie, et il y a une vraie frustration quand même qui s'est construite.
Là, on est effectivement dans une attente qui est compliqué à gérer finalement pour tout le monde. On ne sait pas comment tout va se mettre en place.
Priorité de la nouvelle équipe, le vote du budget et la rentrée scolaire. Une fois passé le conseil d'installation qui aura lieu au plus tard dans 10 jours, le 28 mai.
Et puis c'est aujourd'hui également que les agences Pôle emploi rouvrent à nouveau leurs portes. Attention uniquement sur rendez-vous. Nouvelle étape de déconfinement en Italie. La plupart des activités économiques comme les magasins, les bars ou les restaurants vont redémarrer. Une activité quasi normale, plus ou moins bien accueillie par les Italiens. Cyprien Pezzeril.
Au programme de la journée pour Marie-Véronique, retourner dans sa librairie préférée de Milan.
J'ai très envie d'aller m'acheter de nouveaux livres. Toutes les librairies étaient fermées pendant le confinement. Le seul endroit où on pouvait trouver des livres, c'était dans certains grands supermarchés. Mais c'était un choix quand même extrêmement limité.
Les lieux touristiques, les bars, les restaurants rouvrent aussi.
Faut pas aller trop vite.
Mais Christine craint que cette relance de l'activité soit trop soudaine et donc risquée.
Je ne veux pas me mettre dans un lieu fermé. Je trouve que c'est pas mal en fait de prendre son verre à emporter et d'aller s'asseoir à l'écart et d'aller le consommer comme ça. Moi je me sans dans le doute de savoir si je suis contagieuse ou pas.
Réponse du Premier ministre Giuseppe Conte, l'Italie ne peut pas rester éternellement sous cloche.
Nous sommes confrontés à un risque calculé, sachant, et je le dis très sincèrement, que la courbe épidémiologique pourrait à nouveau repartir à la hausse. Mais nous devons accepter ce risque, sinon on ne pourra jamais redémarrer.
Prochaine étape le 3 juin, la réouverture des frontières. L'Italie sera alors un des premiers pays européens à passer ce cap.
Dans l'actualité également à Besançon, la mort par balle d'un adolescent de 17 ans alors qu'il se trouvait devant l'entrée d'un immeuble situé à Planoise, un quartier sensible de la ville. Le tireur a pris la fuite.
Bien, merci Céline. Alors, est-ce qu'on déconfine trop vite, pas assez vite, vous nous dites. Ce matin, Michael nous a appelé. Michael a 34 ans, il habite à Saint-Mandrier dans le Var et il est resté chez lui. Et il n'arrive plus à quitter son domicile. Il va devoir reprendre le travail le 2 juin. Il ne peut plus, psychologiquement. Il est resté confiné pendant plus de 2 mois, il ne peut plus sortir de chez lui. Écoutez le témoignage de Michael.
Depuis le déconfinement, je ne suis pas encore sorti. J'ai une peur bleue d'être contaminé. Ah, pourtant, j'ai 3 masques en tissu à la maison, donc tant que la mairie de mon village m'a donné, mais je ne sors pas, j'ai peur. Je vais juste chercher mon courrier en bas dans la boîte aux lettres ou quand je reçois un colis. Et c'est encore pire, je demande à ce que le colis ne me soit pas remis. J'ai des amis autour de moi et je leur donne l'argent, ils ont ma carte bleue, parce que bon, j'ai quand même retirer un peu d'argent sur moi, et c'est eux qui vont faire les courses à ma place, tellement j'ai peur d'aller quelque part.
Même avec un masque, Michael ?
Même avec un masque, j'ai peur de sortir.
Vous avez peur que ce virus soit dans l'air ?
C'est ça.
Vous avez peur du contact avec les autres ?
C'est ça. Quand il y avait le confinement et que je sortais, quand je croisais une personne, même si c'était rare, je changeais de trottoir.
Qu'est-ce qui vous ferait ressortir, qui vous pousserait à ressortir, à part le boulot?
Franchement, je sais pas.
Voilà, témoignage de Michael qui vous a fait réagir extrêmement nombreux ce matin. Nous reviendrons demain matin, parce que il n'est pas seul, Michael. Demain matin, nous serons avec un médecin psychiatre qui nous dira comment faire, nous dira s'il est confronté à des cas de plus en plus nombreux, d'hommes ou de femmes, souvent jeunes, qui ont peur de sortir. David est à Lambesc, dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour David.
Bonjour Jean-Jacques.
Vous dirigez une agence bancaire. Vous dites il faut pas vivre avec la peur. Ben, ça, c'est ce qu'on dit, mais c'est pas si facile que ça, qui paralyse certains.
C'est ça. Pour moi, il faut pas vivre avec la peur parce qu'effectivement, on se bloquerait complètement et on ne pourrait plus rien faire. Par contre, personnellement, j'ai continué de travailler tous les jours. Oui, et je vis avec une crainte. Une crainte, et je la trouve, entre guillemets, cette crainte positive parce qu'elle me fait continuer malgré le déconfinement. Elle me fait continuer à conserver les distances, à respecter les gestes barrières pour ne pas justement me contaminer, mais je pense aussi aux proches, ne pas contaminer les proches, puisque j'ai eu la chance d'avoir la naissance de mon 3e enfant pendant le confinement. Et donc j'ai la crainte de contaminer à la maison. Et donc je pense que si on vit sans crainte, malheureusement, on aura tendance à ne pas respecter les gestes barrières, et c'est là où est le vice, c'est de toujours se dire que le virus est présent, et de vivre avec une certaine forme de crainte pour se protéger tous mutuellement.
Je comprends. La crainte est utile, selon vous. Merci, David. Merci, c'est très intéressant. Et merci vraiment d'être avec nous. Vous êtes très nombreux ce matin encore. Merci d'être avec nous. Demain, je reprendrai le sujet. Vous appellerez et je vous mettrai à l'antenne. Parce que c'est vraiment, ça secoue notre société en ce moment. Bien, le professeur Damien Bonnet est avec nous, chef du service de cardiologie pédiatrique à l'hôpital Necker à Paris. Professeur Bonnet, bonjour.
Bonjour Monsieur Bourdin.
Merci d'être avec nous. Alors, 144 cas signalés depuis début mars, cas d'affection rare, proche de la maladie de Kawasaki, vraisemblablement liée au Covid-19, on en est presque sûr, professeur Bonnet, ou on a encore quelques doutes?
On en est presque sûr, puisque la proportion d'enfants chez qui l'infection a été prouvée par des tests sérologiques est d'environ 90%, ce qui n'était pas le cas au moment où l'alerte a été donnée, mais je pense qu'aujourd'hui le lien se fait de façon très claire.
Très claire. Rappelons les symptômes, professeur. Quels sont les symptômes?
Alors, les symptômes sont d'une grande variété, mais ceux qui sont au premier plan, c'est la fièvre prolongée qui dure plus que 3-4 jours. C'est une fièvre qui est élevée chez des enfants qui sont profondément asthéniques. Et les principaux symptômes sont digestifs, des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales. Et puis derrière, il y a tout un cortège de signes qui peuvent apparaître avec des éruptions cutanées, une conjonctivite, et parfois des atteintes d'autres organes, des atteintes respiratoires ou des atteintes rénales.
Des atteintes rénales, la langue qui gonfle, par exemple, professeur Bonnet. Dès que la fièvre dure plus de 2-3 jours, il faut absolument, absolument consulter.
En tout cas, voilà, le message est double, c'est-à-dire que les fièvres banales qui sont peu élevées chez des enfants encore en forme justifient un avis auprès d'un médecin ou du pédiatre de l'enfant, mais les fièvres prolongées plus de 3 jours et élevées chez des enfants très fatigués justifient une consultation rapide.
Pourquoi, professeur, cette nouvelle maladie touche-t-elle certains enfants et pas d'autres ?
Alors ça, on le connaît déjà avec beaucoup de maladies infectieuses et on le connaît aussi avec la maladie de Kawasaki qui a été évoquée, puisqu'il y a certains parallèles avec celle-ci. Il y a une susceptibilité génétique, c'est-à-dire que vous avez dans votre génome un certain nombre de variants qui ne sont pas des anomalies, mais qui vous rendent susceptibles à développer une réaction inflammatoire inappropriée après une infection, par exemple. Et donc c'est pour ça que la maladie reste rare.
Et il y a une étude, je crois, du 7 mai dans The Lancet qui explique qu'en Angleterre, 6 des 8 premiers cas observés étaient des enfants d'origine afro-caribéenne.
Alors, en France, vous savez que la loi ne nous autorise pas à recueillir des informations sur l'origine ethnique ou la religion, mais cette information est disponible. Et puis, si on veut en faire un parallèle un petit peu en miroir, il est un peu curieux que nos collègues asiatiques n'aient pas déclaré ce type de cas, alors qu'ils nous ont précédés dans la pandémie, ce qui peut effectivement suggérer, mais il faut rester prudent pour l'instant, qu'il y ait des populations qui soient plus susceptibles que d'autres à développer cette compétence de l'infection par le coronavirus.
Oui, professeur, mais paradoxalement, la maladie de Kawasaki classique touche davantage les Asiatiques.
Oui, mais c'est aussi un argument pour la susceptibilité génétique de l'une et de l'autre et un argument pour dire que ce sont des affections différentes.
Des affections différentes. Aujourd'hui, 144 cas en France, donc, professeur, ce décès de cet enfant à Marseille. Vous, par exemple, à Necker, vous avez toujours certains enfants qui sont soignés pour cela ?
Oui, tout à fait. Il y a toujours des enfants qui sont admis pour cette maladie. Le rythme ne s'est pas accéléré depuis 3 semaines, mais il y a toujours des enfants hospitalisés. Nous savons depuis le départ qu'il s'agit d'un problème qui peut être grave, puisqu'il y a une atteinte cardiaque qui est au premier plan chez environ 2/3 des enfants. Il est bien sûr extrêmement triste que cet enfant soit décédé à Marseille, et je compatis et je fais mes condoléances à sa famille. Mais il est important que l'ensemble de la communauté médicale ait été avertie de ce problème et s'y soit préparée et continue d'être très vigilante, justement pour les soigner de façon précoce et efficace.
Les enfants qui sont soignés, par exemple à Necker, restent longtemps à l'hôpital ? Est-ce qu'avant de les retrouver en bonne santé, il faut être très patient, professeur ?
Il y a différents moments du séjour. Pour ceux qui sont admis en unité de soins intensifs ou en réanimation, ils y restent 4 ou 5 jours, le temps de récupérer et de pouvoir aller dans une unité de pédiatrie habituelle. Mmh. Et puis ensuite, il reste encore quelques jours avant de rentrer à la maison. Maintenant, ce que nous avons organisé de façon collective, c'est une surveillance des différents organes et en particulier du cœur pour s'assurer qu'il n'y a pas de problèmes à long terme, mais c'est ce qu'on ne semble pas observer pour l'instant.
Pas de séquelles.
On va rester prudent. En tout cas, on va rester prudent pendant les quelques semaines qui viennent, avant de dire qu'il n'y en a pas définitivement, puisqu'on sait que, par exemple, dans la maladie de Kawasaki, qui partage certains qui a certains parallèles avec ce problème, il peut y avoir des anomalies vasculaires un peu plus tard dans l'évolution. Pour l'instant, on surveille encore les enfants qui ont été atteints.
Merci beaucoup, professeur Damien Bonnet, chef du service de cardiologie pédiatrique à l'hôpital Necker, à Paris, les 8h21. Merci, 8h21.
À suivre dans Bourdin Direct, assouplissement des 35 heures, revalorisation des salaires. Que contient le plan du gouvernement à destination des soignants ? Frédéric Simotel nous détaille tout dans une minute sur RMC.
RMC, Bourdin Direct.
Et vos messages ce matin, celui de Pascal. On a reproché à l'État d'infantiliser la population, de porter atteinte à nos libertés avec les restrictions. Eh bien, quand on voit toutes les images du week-end de masques jetés dans la rue, ne croyez-vous pas que l'État avait raison, écrit Pascal. La population est irresponsable, incivique, encore une fois essentiellement dans les métropoles. Et le pompon, c'est bien sûr le jet de masques dans la rue, scandaleux, geste criminel, écrit même Pascal. Jean-Pierre nous dit, il faut sanctionner ces personnes. Lamentable de voir notre voirie inondée d'immondices ainsi que nos plages et nos forêts. Christophe est pour une amende, ils ne comprennent que ça. Yann nous dit ils sont indisciplinés et sales, ces gens ils n'ont aucun respect et l'amende devrait être obligatoire. Pour Philippe, c'est carrément 1000 euros d'amende minimum. Si j'en vois un jeté au sol, ça fumerait sûrement. 100% pour une amende aussi pour les déchets par terre chez Christophe. Thierry nous dit qu'à Royan ce week-end, des masques en pagaille par terre, c'est une honte. Olivier nous écoute, lui, de Nouvelle-Calédonie et nous dit qu'en Corée et au Japon, il n'y a aucun masque par terre. Des gens et des citoyens éco-responsables.
RMC, 6h-9h, Romain Direct.
Il est 8h25, c'est Frédéric Simotel qui est avec nous. Hausse des salaires, plus 300 euros, demandent des infirmiers. Mm-hmm. Ils étaient avec nous tout à l'heure à 7h10. Réforme des temps de travail. Olivier Véran a dévoilé ce week-end les contours du plan pour l'hôpital qui sera présenté avant l'été. Qu'apprend-on?
Alors, il est resté assez général, mais il a quand même donné quelques pistes assez sérieuses. Donc, il a envie d'aller vite. Il a envie d'aller vite. Alors, le 25 mai, il va réunir les partenaires sociaux et les collectifs hospitaliers pour donner le coup d'envoi à ce qu'il appelle un Ségur de la santé. Hein, c'est du nom de l'avenue où est implanté le ministère de la Santé. Alors, un, vous l'avez dit, amélioration des rémunérations pour les salariés de l'hôpital, hein, qui comptent d'ailleurs beaucoup de femmes. Atteindre un niveau de rémunération correspondant au moins à la moyenne européenne. La moyenne européenne, c'est 44 000 euros par an contre en France, alors selon le médecin, enfin, la moyenne c'est entre 35 000 et 37 000 euros.
Oui, selon l'infirmier.
Voilà, il y a un gros rattrapage à faire. Ensuite, mise en route d'un programme d'investissement sur la réorganisation des soins, hein, sur la logistique. Il faut sortir du dogme de la fermeture des lits, c'est lui-même qui le dit. Et puis, un point très important, revoir le cadre du temps de travail à l'hôpital et notamment remettre en cause les sacro-saintes 35 heures. Si des salariés de l'hôpital veulent travailler davantage pour gagner plus, ben il faut les laisser faire. Aujourd'hui, il faut savoir que des infirmières, pour augmenter leur rémunération, font ce qu'on appelle des ménages, hein, dans d'autres.
Vont travailler dans une clinique privée ou faire des heures et sont payées, oui.
Et donc aujourd'hui, il faudrait qu'elles puissent le faire à l'intérieur de leur établissement. Et puis derrière, c'est revalorisation des carrières. Vous savez que c'est un métier qui est très, on avance par grilles, il y a peut-être des choses aussi à revoir dans ce domaine-là. Et puis derrière, il faudra traduire tout ça dans le futur budget de la sécurité sociale.
Voilà, dans le prochain budget de la Sécu.
Exactement.
Hein, justement, vous pouvez nous donner quelques chiffres clés sur le budget.
Alors voilà, j'ai creusé un peu. Alors, il faut savoir que l'hôpital, il est financé à 77% par l'assurance maladie. Le reste, ça vient de le paiement des honoraires des patients des mutuelles. 12 à 20%, c'est la facturation des actes médicaux. Donc, 77% par l'assurance maladie. Et dans les dépenses, eh bien, 50 à 70% des dépenses, c'est du personnel, c'est de l'enveloppe financière pour les salaires. Hein. C'est 30% pour les médicaments, 6 à 8% pour les prestations hôtelières, la restauration. Mais voyez, donc les deux chiffres qu'il faut retenir, c'est les dépenses. Enfin, le budget, c'est 77%, ça vient de l'assurance maladie. Et allez, 60% de ces dépenses, c'est pour du salaire. Donc on voit pourquoi il faut vraiment
rééquilibrer les choses et ces points-là. Les points. Merci Frédéric, merci. Tiens, un mot avant de retrouver Valérie Pécresse, qui est la présidente de la région Île-de-France. Au Qatar, on ne plaisante pas avec les masques, Quentin Vinet.
Oui, en France, les amendes, c'est dans les transports en commun. Au Qatar, eh bien, ce sont les sanctions les plus sévères du monde contre ceux qui ne portent pas de masque en public, hein, que ce soit dans les transports ou dans la rue. Jusqu'à 50 000 euros d'amende et 3 ans de prison. Pourquoi? Eh bien, pour endiguer la pandémie qui se propage rapidement là-bas.
Qui se propage rapidement. Alors, si vous ne portez pas de masque dans la rue au Qatar, 50 000 euros.
Jusqu'à 50 000 euros d'amende et 3 ans de prison, oui.
Oui, là, remarquez, on ne lésine pas. Hein. On porte un masque. Hein. Enfin, bon. Et au Brésil, Bolsonaro se moque des gestes barrières.
Ah oui, alors, il a harangué ses partisans qui ont manifesté par centaines ce week-end, sans masque, sans distanciation sociale, bien sûr, alors que le virus a tué plus de 16 000 Brésiliens. Les États, là-bas au Brésil, ont plus de pouvoir que Bolsonaro dans la gestion de cette crise. Alors, certains pro-Bolsonaro décident de manifester. Ils réclament carrément une reprise en main militaire et la fermeture du Parlement.
Bien, ben merci à toutes et à tous de nous avoir accompagnés ce matin. Encore une fois, c'est un vrai plaisir de vous savoir là. Vous connaissez notre lien, le 3216, et puis notre lien quotidien. Vous êtes avec nous, nous sommes avec vous. Il est 8h29, Valérie Pécresse est notre invitée dans un instant, la présidente de la région Île-de-France.
RMC Bourdin Direct,
Jean-Jacques Bourdin.
Il est 8h34, Valérie Pécresse est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être notre invitée, présidente de la région Île-de-France. Alors, le déconfinement a commencé depuis 8 jours maintenant, une semaine, et j'entends déjà, ça et là, le débat. Certains disent ça ne va pas assez vite, d'autres disent ça va trop vite. Quel est votre sentiment? Ça va trop vite ou pas assez vite?
Je crois qu'on est dans une progression et qu'il faut l'accompagner, mais il faut l'accompagner avec beaucoup de vigilance. L'Île-de-France, vous le savez, a failli ne pas être déconfinée.
Oui.
Donc on avance avec encore beaucoup de prudence. On est sous contrôle permanent. Je vous prends un seul exemple, les transports. Les transports sont déconfinés depuis 8 jours. Ça s'est globalement bien passé, mais ça s'est bien passé pourquoi ? Pour plein de raisons. D'abord parce qu'on a demandé à tous les franciliens de rester au maximum en télétravail. Et il faut qu'ils continuent jusqu'au 2 juin à rester en maximum au télétravail. On a demandé aux entreprises de lisser les heures de pointe, c'est-à-dire de faire arriver leurs salariés entre 6h30 et 10h30. D'ailleurs,
vous avez été écouté par l'État.
Elle pourrait le faire encore plus. On a une charte de dialogue social qui le prévoit. Elle devrait le faire encore plus. Et puis, on a réussi globalement, pas trop mal. Pourquoi ? Parce que on regarde jour après jour ce qui se passe dans les transports et on adapte jour après jour ce qui se passe. Donc vous voyez que tout cela se fait sous haute surveillance.
Voilà, je vais revenir sur la collaboration entre les régions et l'État. Hein, on s'est aperçu de l'importance des régions, du rôle des régions, pas que des régions d'ailleurs, des départements ou des municipalités. Mais est-ce que ce déconfinement se fait sur un bon rythme, Valérie Pécresse, vous trouvez ?
Pour moi, parler de rythme national, ça n'a pas de sens.
N'a pas de sens.
Vous venez de le dire.
Oui.
Quel est le rapport entre une région, donnez un nom, Grande Aquitaine, dont on pense que 1,5% de la population a été touchée, ou l'Île-de-France, où près de 15% de la population a été touchée. Ça n'est pas la même chose. Et donc, je pense que le rythme du déconfinement ne doit pas être le même selon les territoires. On doit pouvoir s'autoriser un petit peu plus de vitesse, puisque vous parlez de vitesse, dans des régions qui sont beaucoup moins touchées. Tout ça, évidemment, en veillant à ne pas faire repartir l'épidémie.
Alors, je vais être très concret. Est-ce qu'il faut ouvrir tous les parcs et jardins à Paris et en Île-de-France ?
Alors, vous
oui ou non ? C'est ce que demande la maire de Paris, Anne Hidalgo. Quelle est votre position ?
Moi, j'y suis favorable à condition qu'il y ait plus de contrôle. Parce que, vous le savez, l'Île-de-France a réouverte ses 39 forêts.
Oui.
Donc on a 39 forêts en Île-de-France qui sont réouvertes. Je pense que dans une région comme la nôtre, notamment à Paris, où tout le monde est confiné dans de petits espaces, le fait de ne pas réouvrir les parcs et jardins, ça peut avoir un effet pervers, celui qu'on a vu ces derniers week-ends, de gens qui sont entassés sur des quais du canal Saint-Martin, etc.
Oui.
Donc oui, je pense qu'il faut les réouvrir, mais avec beaucoup de contrôle pour vérifier qu'il n'y a pas d'attroupement et que les règles de distanciation sociale sont bien
ouvrir les bases de loisirs, les piscines, les terrains de sport.
Alors, les piscines, c'est un petit peu plus compliqué. Les terrains de sport aussi, parce que c'est des sports collectifs. On se touche dans un certain nombre de sports collectifs. Le rugby, je pense que vous devez être un amateur.
Oui, j'adore ça.
Donc, il y a des sports où on se touche. Donc, là, c'est vraiment aux autorités sanitaires de nous donner les clés. Mais en revanche, les parcs pour la promenade, pour la respiration, pour aérer la ville, bien sûr.
Bien. Et les bases de loisirs ?
Les bases de loisirs, je le crois aussi, parce que c'est le jardin de ceux qui n'en ont pas.
Oui.
Après, les piscines, c'est un autre problème.
Bien, les cafés, bars, restaurants, fin mai, début juin, vous demandez cette ouverture ?
Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on travaille, et je sais que le gouvernement le fait, avec la Fédération des cafés et restaurants, sur un protocole qui soit un protocole crédible. Parce que le problème des restaurants, et vous le savez, c'est est-ce qu'ils peuvent survivre en n'ayant qu'une seule table sur deux qui est occupée ? Est-ce qu'ils ont un modèle économique ? Et donc, moi, je suis très inquiète pour le secteur des cafés-restaurants. J'ai d'ailleurs appelé solennellement le secteur des assurances, parce que vous savez qu'un certain nombre de cafés-restaurants ont pris des assurances de perte d'exploitation, et qu'il y a un certain nombre d'assurances qui refusent...
De compagnies qui refusent
de payer ces pertes d'exploitation. Il y en a un certain nombre d'autres, qui, comme le Crédit Mutuel, la Société Générale, le Crédit Agricole, ont dit... C'est notre devoir moral de compenser ces pertes d'exploitation.
Les mutualistes, les assureurs mutualistes.
Exactement. Mmh. Et ils ont fait un fonds de solidarité. Ben moi, je dis que j'appelle tout le secteur des assurances à vraiment prendre en compte ce devoir moral.
Vous les avez appelés
Je leur ai écrit.
Vous leur avez écrit. Bien, Valérie Pécresse, les élèves de collège 6e, 5e retrouvent les classes en zone verte. Je dis bien en zone verte. Est-ce que vous souhaitez que les collèges et lycées rouvrent rapidement en zone rouge en Île-de-France ?
Si c'est possible sanitairement,
c'est
je pense que pédagogiquement, ce serait utile. Voilà, ouais. Je le pense, parce que je pense qu'avoir au moins un mois encore de reprise de contact avec les professeurs, la classe, ouais. Pouvoir avoir peut-être aussi quelques notes supplémentaires.
Vous appelez
quelques
à la notes supplémentaires
pour ceux qui ont eu un mauvais premier trimestre et qui se retrouvent, je pense aux élèves de première, de terminale, qui se retrouvent avec un contrôle continu qui n'est pas bon. Vous savez que les notes de confinement n'ont pas été prises en compte. Donc vous avez des élèves qui ont fait un mauvais premier trimestre, mais qui ont travaillé pendant le confinement. Donc il faut qu'on puisse essayer, je pense, de réouvrir si c'est possible. Et d'ailleurs, la région s'y prépare. Hein. On est en train de nettoyer et de remettre en place, de désinfecter tous les lycées d'Île-de-France.
Tous les
On
lycées.
Sera prêt à réouvrir en juin si les autorités
Mais
sanitaires
vous souhaitez
nous autorisent.
Vous souhaitez cette réouverture.
Je pense que pédagogiquement, pour les élèves, ce serait bon. Ce serait bon de réavoir un contact avec la classe avant la fin de l'année.
Mais comment faire pour les cantines?
Et notamment pour les décrocheurs, mais pas, oui. que, mais pas que.
Mais pas que. Et pour les cantines, comment faire?
Alors pour les cantines, à ce stade, nous ne prévoyons pas la réouverture, nous prévoyons des paniers repas qui pourraient être distribués aux élèves.
Vous pourriez, la région pourrait distribuer des paniers repas?
Absolument, absolument, c'est ce qu'on est en train de préparer.
C'est ce que vous êtes en train de préparer.
Parce que sinon c'est très compliqué, enfin c'est très oui. compliqué de réouvrir des cantines vraiment.
Mais bien sûr. Les transports, on en parlait tout à l'heure. La RATP, fin mai, 100% de son offre, Valérie Pécresse?
En tout cas, c'est l'objectif. L'objectif, c'est que d'ici le 2 juin, qui est la période que l'État nous a donnée, on soit vraiment à 100%. On va même essayer d'anticiper au maximum pour avoir plus d'offres. Mais là encore, Monsieur Bourdin, je vous le dis tout de suite, 100% de l'offre, ça veut dire 25% des passagers. Ça veut dire que si dans un RER où on met 700, un RER A, où on met 2500 personnes tous les jours, on pourra en mettre que 700. Dans un métro où on met 700 personnes tous les jours, on pourra en mettre que 200. Donc si on veut respecter cette décision
de
distanciation physique, on est obligé d'avoir qu'un tiers des personnes dans les trains. Ça nécessite un filtrage qui doit se poursuivre. J'ai écrit à Monsieur Castaner, ça s'est bien passé la première semaine.
Policiers et gendarmes.
Oui, ça s'est bien passé la première semaine parce qu'il y avait ce filtrage. Si ce filtrage, si les policiers ne sont pas là pour prêter main forte, vous le savez, les transports, ben c'est un grand goulet d'étranglement et on aura des effets de foule que nous ne voulons pas avoir. Alors peut-être, et c'est ce que je souhaite, l'épidémie va suffisamment régresser pour que le 2 juin, on puisse alléger ces obligations. Parce que vous savez qu'on est l'un des seuls pays d'Europe à imposer la distanciation sociale dans les transports en commun pour rassurer la population et éviter la propagation du virus. Donc on est l'un des plus stricts au monde.
L'un des plus stricts au monde, c'est vrai. Vous demandez donc une prolongation du renfort des policiers et gendarmes.
Absolument. Prolongation du télétravail au maximum jusqu'au 2 juin et au-delà. Et lissage des heures de pointe pour les entreprises. Vraiment, j'y insiste parce que ça peut, à l'avenir, le télétravail et le lissage des heures de pointe, résoudre nos problèmes écologiques. Ça peut résoudre le problème des embouteillages en Île-de-France. Si au lieu d'arriver tous, de reprendre nos mauvaises habitudes après le confinement, de réarriver tous entre 8h et 9h, on arrivait tous entre 6h30 et 10h30, pas tous à 6h30 tous les jours, pas tous à 10h30 tous les jours, mais qu'on espaçait nos arrivées sur une tranche horaire large, on n'aurait plus d'embouteillages en Île-de-France et on n'aurait plus ces transports congestionnés une heure par jour, parce que c'est ça la vérité. Et les Franciliens sont en train de découvrir qu'on peut prendre des transports en commun sans être serrés les uns contre les autres.
Le dépistage, 5 millions de tests sérologiques à disposition des associations, des entreprises et des collectivités en Île-de-France. C'est bien ce que vous annoncez. Des tests sérologiques, pardon, mais qui ne sont pas très fiables, hein, Valérie Pécresse,
alors,
pour l'instant.
Si, les tests sérologiques que nous allons mettre à disposition pour les soignants et pour ceux qui souhaitent en acheter et en disposer, les personnes fragiles notamment en matière de santé, ces tests sérologiques, c'est une brique supplémentaire dans la politique de déconfinement. C'est quoi cette brique? C'est de permettre de savoir si vous avez eu le virus ou pas. Les tests sont très fiables. Ils ont été testés par l'Institut Pasteur.
Ne permettent pas de savoir si une personne est immunisée ou pas.
Alors, ils permettent de savoir si on a eu le virus. Et il semble, je le dis avec beaucoup de prudence, il semble que le fait d'avoir eu le virus donne une forme d'immunité. À ce stade, on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. On ne sait pas si cette forme d'immunité est durable ou pas. Mais vous savez, on est en train de chercher, et donc on va se trouver. Petit à petit, on va savoir. Et pourquoi c'est important ces tests? Ces tests qui sont importants, notamment pour les personnels soignants. Les personnels soignants qui sont beaucoup au contact du virus, voudraient savoir si elles ont eu le virus ou si elles ne l'ont pas eu. Et de cette réponse dépend aussi la stratégie de l'hôpital, la stratégie de mettre en avant telle personne ou telle autre. Pareil pour les personnes qui sont en grand risque de santé. Si vous êtes diabétique, si vous êtes en surpoids, si vous êtes immunodéprimé, si vous avez des gros risques, ben, savoir que vous avez eu le virus ou savoir que vous ne l'avez pas, ça peut vous conduire à vous protéger davantage ou à moins vous protéger ou en tout cas à reprendre une vie plus normale. Donc cette information, les Français souhaitent l'avoir et c'est l'État qui va définir comment cette information peut leur être donnée. Aujourd'hui, il y a un décret qui va paraître. Mais moi, ce que je voulais, c'est qu'on ne soit pas dans cette dans cette politique de testing, qu'on ne soit pas en retard et qu'on soit prêt, donc on sera prêt. Et il y aura 5 millions de tests à l'achat sur la plateforme de la région pour tous les professionnels de santé qu'ils voudront. Entre 8 et 9 euros, le test, ils doivent être faits en présence d'un professionnel de santé. L'État va dire comment ça va se passer. Et nous, nous en donnerons 150 000 aux soignants d'Île-de-France en signe de reconnaissance, c'est parce qu'ils ont envie d'avoir cette information. Vous savez, moi, je me déplace dans tous les hôpitaux d'Île-de-France et les soignants veulent savoir s'ils ont eu la maladie ou s'ils ne l'ont pas eu.
Bien, Valérie Pécresse, puisque vous parlez des soignants, parlons-en. Les soignants qui demandent des hausses de salaire, et notamment infirmiers et infirmières, qui demandent 300 euros pour revenir à la moyenne européenne. Est-ce que le gouvernement doit répondre à cette demande ?
Plus largement, il faut un vrai plan de relance qui passe par la réforme de la santé. Bon, oui, d'accord. Oui à la revalorisation des salaires.
Des 300 euros, vous dites oui.
Oui à la revalorisation des salaires des personnels de santé, toutes catégories confondues. Mais aussi oui à une réorganisation profonde de notre système. Parce que ce qu'on a vu, Jean-Jacques Bourdin, c'est en fait qu'il faut fonder notre système de santé sur la coopération, qu'il faut arrêter que chacun soit dans son couloir, qu'il faut arrêter que les urgences hospitalières accueillent toutes les personnes qui devraient être traitées par la médecine de ville, qu'il faut repositionner notre hôpital sur les vraies urgences, qu'il faut aussi débureaucratiser tout ce système, essayer de faire mieux aussi en mutualisant.
Revoir le carcan des 35 heures à l'hôpital ?
Non, revoir plutôt le carcan des normes publiques, je le dirais comme ça. Parce qu'aujourd'hui, l'hôpital public, il a toute une série de procédures, d'appels d'offres, de règles administratives qu'il doit respecter. Et on s'aperçoit que des structures qui sont plus souples, structures associatives par exemple, sans but lucratif, fonctionnent en coûtant beaucoup moins cher. Et c'est le coût de la norme. Vraiment, ce que je ressens, c'est que cette crise a montré l'échec du modèle bureaucratique français. On a trop de normes, on a trop de règles à respecter. Ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche d'agir. Et on l'a vu, pourquoi les régions ont été plus agiles que l'État pour se procurer des masques ? Pourquoi elles ont été plus agiles que l'État dans les aides économiques de proximité, dans l'accueil des sans-abri ? Mais parce qu'on n'a pas de normes, on a beaucoup moins de normes à respecter. Et puis on s'en est affranchi.
Comme en Allemagne d'ailleurs.
Et on s'en est affranchi.
Comme en Allemagne d'ailleurs.
Absolument.
Bien, la médaille de l'engagement, vous trouvez que c'est une bonne idée, ça, ou pas ?
Écoutez, moi, je pense qu'effectivement, c'est symbolique, mais le symbolique, ça a du poids et de la puissance. Moi, j'y suis favorable.
Vous y êtes favorable ?
J'y suis favorable, mais évidemment, c'est pas pour solde de tout compte. Et ça ne nous exonère pas de réformer complètement notre système de santé.
Bien, la relance économique, taxer les plus riches, rétablir l'ISF ?
Ce que je crois, c'est que si on commence par partir sur le concours Lépine des hausses d'impôts, il n'y a qu'une seule chose qui va se passer, c'est qu'on va complètement casser la relance. Donc, zéro hausse d'impôts, pour moi, c'est une ligne rouge.
Ni, faut pas ni SF, ni...
Mais en revanche, là où vous avez, je pense, raison, c'est qu'il va falloir qu'on fasse tous des gestes de solidarité. Parce que la vérité, c'est que la crise sociale, elle est devant nous. La crise sanitaire, j'espère qu'elle est derrière, avec beaucoup de vigilance. En tout cas, on l'a prise à bras le corps, mais la crise sociale, la crise économique, elle est devant nous.
Oui, mais...
Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir une montée de la précarité. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir faire des gestes de solidarité. Tous, là où nous sommes et avec les moyens que nous avons.
Mais alors, gestes de solidarité, c'est quoi ? Certains demandent aux salariés de travailler un petit peu plus.
Non, moi, pour moi,
c'est
les gestes...
C'est un geste de solidarité
non,
ou pas ?
Non, pour moi, les gestes... Non, mais attendez, ce n'est pas provocateur. Entendu. Vous êtes provocateur. Mais
c'est Bruno Retailleau qui demande ça. C'est
volontairement
d'autres.
Provocateur. Le vrai sujet, ça va être de remettre dans l'emploi tous ceux qui, aujourd'hui, en sont privés, en sont éloignés et faire redémarrer toutes les entreprises qui ne peuvent pas redémarrer. C'est ça la priorité. Et c'est pas faire de la provocation sur le temps de travail.
C'est de la provocation sur le temps de travail.
Aujourd'hui, ça ne peut être vécu que comme ça par des millions de chômeurs qui ne demandent qu'à retravailler. C'est ça la situation aujourd'hui. Et d'ailleurs, si on fait un plan de relance, il doit être très puissant. Je pense que l'emploi doit être le cœur et la baisse des cotisations et des charges sur l'emploi doit être au cœur. Il faut baisser les charges patronales. Il faut aussi. Moi, j'ai très peur, Monsieur Bourdin. J'ai très peur des jeunes. J'ai très peur pour les jeunes. J'ai très peur d'une génération sacrifiée, de jeunes qui vont avoir leur diplôme, leur CAP, leur bac, leur diplôme, là, leur qualification en juin, et que personne ne va recruter. C'est pour ça que j'ai demandé à l'État de faire un plan zéro charge sociale pour l'embauche des jeunes pendant 2 ans, pour éviter qu'on ait cette génération
sacrifiée. Pas de charge sociale pour l'embauche d'un jeune pendant 2 ans.
Absolument. Mais vous savez, je vous parlais de solidarité. Je vais vous donner un exemple de geste de solidarité que je trouve très parlant. À la région, les directeurs de la région se sont réunis et ont dit « Nous allons donner des jours de RTT ». Aux associations caritatives pour lutter contre la pauvreté. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils disent on a des RTT, on va pas les prendre, on les donne. La région s'engage à les transformer en argent, puisqu'un jour de RTT ça vaut de l'argent, de les transformer en argent et cet argent on le donnera aux associations caritatives. Vous voyez ? Donc même dans la fonction publique où on n'a pas des salaires mirobolants, il y a des gestes de solidarité qu'on peut faire, des dons qu'on peut faire, on peut donner ces RTT et donc vous voyez, mais quand on est chef d'entreprise, quand on a des hauts salaires, en revanche, les gestes de solidarité peuvent permettre à un salarié
de donner des RTT au personnel soignant.
Voilà, mais aux dirigeants de réduire leur rémunération. Moi, je pense que les dirigeants devraient aussi réfléchir à réduire leur rémunération.
Quels dirigeants, lesquels, qui ?
Les dirigeants, ceux qui pensent qu'ils touchent des salaires très élevés et que dans cette période, il y a des gestes de solidarité
à faire. Vous allez diminuer votre rémunération ? Puisque vous êtes dirigeante.
Oh, écoutez, c'est des choses qui peuvent s'envisager aujourd'hui.
Vous pourriez aujourd'hui décider, dire, je vais baisser un temps ma rémunération pendant, je ne sais pas, trois mois.
En tout cas, moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, nous allons tous être appelés à faire des dons. Et donc, ces dons, il faut qu'on réfléchisse comment on va les faire. Soit ce seront des dons à des associations caritatives, soit ce seront des réductions de salaire. Je pense qu'il va falloir qu'on se mette tous dans cette logique de lutte contre la précarité.
Mais qui doit réduire ses salaires ? Tous les élus, tous les directeurs d'administration, je ne sais pas, Monsieur Bourdin,
vous savez, la France a montré des trésors de solidarité dans cette période et il va falloir continuer. Je vais vous donner d'autres exemples.
Allez-y.
Aujourd'hui, nous lançons un grand plan de lutte contre la précarité. Qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a décidé qu'on allait acheter tous les surplus alimentaires de nos agriculteurs tous jusqu'à la fin de l'année. Et que tous ces surplus alimentaires, on allait les donner. On va les distribuer dans les lycées d'Île-de-France.
C'est-à-dire que la région va acheter tous les surplus des agriculteurs de la région.
Absolument. Et on a commencé. On a déjà fait des distributions dans une dizaine de villes populaires. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, vous le savez, il y a des personnes qui n'ont pas eu de revenus depuis 2 mois et qui peinent à trouver à manger. C'est ça la situation de la France. Mais de la même façon, Emmaüs a crié au secours et la région va donner 250 000 euros dans le cadre de la souscription d'Emmaüs, des communautés Emmaüs qui n'ont pas pu travailler pendant le confinement. Pour les familles les plus modestes, les familles des lycéens les plus modestes, nous allons donner une aide pour 109 000 familles pour remplacer les cantines. Parce que vous savez que la cantine, ça permettait aux familles, en réalité, d'avoir un repas équilibré, très subventionné par la collectivité. Le fait de ne pas avoir eu de cantine pendant 2 mois, c'est des coûts pour les familles qu'on a évalués à peu près 60 euros. Donc on va donner cette aide de 60 euros à 109 000 familles pour leur permettre de retrouver le pouvoir d'achat qu'elles avaient pendant le confinement. Donc vous voyez, toute cette question de la lutte contre la précarité va être au cœur, à mon sens, des politiques. Je pense aussi à la précarité étudiante, je pense à la précarité de tous ces jeunes qui aujourd'hui ont été confinés, n'ont plus de petits boulots pour travailler, pour améliorer leur fin de mois. Donc sur tous ces sujets-là, la région sera présente.
Dernière question, les municipales. Est-ce que le second tour doit avoir lieu en juin ?
Je crois que les municipales doivent avoir lieu le plus tôt possible, dès que sanitairement c'est possible.
Parce que vous avez vu, beaucoup de maires demandent le 28 juin, demandent à ce que ce second tour ait lieu le 28 juin.
Ça n'est pas à mon pouvoir de fixer la date,
mais
là où je les rejoins totalement, c'est qu'il faut avoir des maires rapidement. Pourquoi ? Parce que le plan de relance passera par les maires, passera par la commande publique, passera par les permis de construire, passera par le redémarrage d'un certain nombre de travaux qui vont donner de l'emploi. Donc il nous faut des maires en place, légitimes, qui peuvent faire des travaux. Vous savez qu'un maire en campagne ne lance jamais de travaux dans sa ville. Donc il faut des maires élus rapidement, dès que c'est possible.
Merci Valérie Pécresse d'être venue nous voir ce matin. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV.